Je suis aujourd'hui avec Madame Papendrastic, qui est conservateur du musée de l'ODEV pour l'exposition qui a lieu actuellement qui a démarré le 28 septembre et qui durera jusqu'au 23 février 2020 autour des chefs-d'œuvre du musée d'Ixelles. Ce musée se trouve à Bruxelles. L'exposition est intitulée Ensor Magritte Alechinski, chef-d'œuvre du musée d'Ixelles. D'abord, je voulais quand même vous demander si vous pouviez intervenir autour du déplacement de cette exposition, parce qu'habituellement, on avait l'habitude de venir vous voir pour l'exposition d'été, et je vois que l'exposition a commencé fin septembre. Vous pouvez nous parler des raisons de ce choix ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est un choix qui est basé sur plusieurs constatations. D'abord, le constat que notre public en été, en tous les cas, c'est ce qui s'est passé pour 2018. Juillet, août et début septembre a été plutôt un public familial, et que le public qui s'intéressait réellement à l'exposition, ou qui vient spécifiquement pour la grande exposition, ne vient en général qu'à partir de mi-septembre. Et donc, on s'est dit qu'on allait décaler l'exposition et proposer l'été plutôt une stratégie développée vis-à-vis du public familial touristique, et proposer la grande exposition pendant un temps où les autres musées finalement ont moins de propositions. C'est aussi par rapport à la multitude d'offres qui existent pendant l'été dans cette région, et notamment tout autour de nous. Et donc on s'est dit, y a peut-être quelque chose à faire, à proposer une offre pendant un temps un peu plus calme.
Vous avez fait le choix de présenter un panorama de la peinture belge depuis la deuxième moitié du 19e siècle à nos jours. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous opériez sur ce choix ?
Alors, c'est un peu un concours de circonstances. Je connais bien Claire Leblanc, la directrice du musée d'Ixelles, depuis un moment, puisque nous avions déjà collaboré dans le cadre de l'exposition sur le peintre belge Théo van Rijsselberghe. Et puis nous nous sommes rencontrés, nous avons des musées, avec des connivences à la fois en termes de, de taille, de dimension de nos structures, même si les contenus effectivement sont très différents, et puis une affinité, je pense, entre collègues, qui fait que nous sommes restés en contact. Et lorsque Claire m'a annoncé que son musée allait fermer pour mener à bien un projet de rénovation, comme ça a été le cas pour l'ODEV, je lui ai proposé de valoriser une partie des collections de son musée dans le sud de la France, et de permettre ainsi au public ici de voir des œuvres d'un musée à Bruxelles, que a été l'occasion de faire découvrir tout cela. Et donc l'axe qui a été choisi, c'est effectivement de proposer un panorama de l'art belge sur une centaine d'années.
Donc on aura l'occasion de l'évoquer, il y a eu des influences extérieures autour de cet art belge, mais est-ce que vous notez des spécificités particulières à l'art pictural de cette époque en Belgique ?
Oui, disons que la Belgique est un pays très jeune, 1830, donc c'est un pays à la fois jeune, pas très grand, géographiquement situé un peu dans un carrefour, et donc c'est un pays qui est à la fois une sorte d'éponge, et en même temps qui reçoit des influences et qui donc reçoit des influences d'un peu partout, mais qui doit en même temps s'affirmer. Et je pense que ça reflète bien, l'art qui est visible dans cette exposition montre bien cet aspect qui est à la fois constitué d'un ancrage très fort dans le réel, avec quand même une tendance au non-conformisme.
Alors, autour du paysage, on remarque que l'impressionnisme et le néo-impressionnisme émergent autour de 1880 en Belgique. Dans cette période, on admire tout particulièrement, c'est ce que j'ai ressenti, le traitement du ciel, des nuages, de la mer, avec des des peintres que le grand public français méconnaît. J'ai tout particulièrement remarqué le superbe ciel nuageux d'Hippolyte Boulanger. Il y a plusieurs peintures qui traitent de ce sujet, de la tourmente du ciel, des nuages, des paysages dépouillés avec peu ou pas de personnages, enfin ce qui est du ciel, pas du tout.
Mmh.
Est-ce que ça fait partie peut-être de cette spécificité belge, ce traitement, ces grands horizons peut-être dépouillés
Oui, disons que comme en France un peu plus tôt, il y a à la fois l'influence un peu de l'école de Barbizon, pas complètement les débuts, mais quand même on n'est pas très loin des débuts de la peinture de plein air qui est rendu possible grâce à l'invention du tube de peinture. Et donc, il y a ce goût aussi des peintres belges d'aller à l'extérieur et de capter des motifs qui sont devant eux. Alors, et bien sûr, effectivement, les paysages que nous voyons sont forcément des paysages du Nord, avec une présence forte de la mer, avec une présence forte de grands horizons, puisque c'est un plat pays, il y a peu de relief, et bien sûr aussi avec une propension à des couleurs plutôt un peu froides qui reflètent le temps qu'il peut faire dans ces contrées. Donc il y a effectivement à la fois il y a quand même cet ancrage effectivement très très fort dans ce qui est visible autour des peintres, mais en même temps dans certains tableaux, et c'est le cas de celui d'Hippolyte Boulanger. Notamment, on n'est pas très très loin d'une approche presque abstraite, puisque finalement la ligne d'horizon est tout à fait placée, et si ce n'est cette ligne d'horizon, on a un ciel nuageux qui en soi est un motif presque où la peinture elle-même devient presque le sujet.
Dans la période suivante, impressionnisme et néo-impressionnisme voient le développement de groupes d'artistes d'avant-garde belge. L'exposition comporte de très beaux paysages, de fronts de mer, de plages peints à cette époque, souvent avec des teintes très délicates. Par exemple, une œuvre d'Émile Charlet, qui est une œuvre majeure, La levée des nasses, pour lesquelles on parle de luminisme. J'ai vu ça.
Oui,
je vous écoute. Parler du luminisme, puisque quand même c'est.
Oui, absolument. En fait, c'est un terme effectivement qui a été, je crois, même inventé par le peintre Émile Claus. Et donc, c'est à la fois. Comment dire, une espèce de synthèse qui est faite par le peintre entre le néo-impressionnisme et l'impressionnisme, avec cette spécificité vraiment belge et qu'on retrouve chez d'autres peintres qui ne sont pas représentés dans l'exposition, mais je pense à un peintre comme Léon de Smet qu'on a pu voir dans la collection Arcas, de tous ces peintres qui se sont regroupés un peu sous cette appellation luminisme, c'est-à-dire c'est un néo-impressionnisme très, où la lumière est très 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 importante, mais avec toujours chez Émile Claus dans cette levée des nasses, encore une fois c'est un sujet qui représente donc deux hommes sur une barque en train de lever les nasses, donc quelque chose de très réaliste de la vie courante, mais qui est traité d'une manière très libre, avec beaucoup d'intensité lumineuse. Enfin, c'est un très très beau tableau.
C'est magnifique, effectivement. On peut aussi admirer des huiles de l'artiste von Risselberg qu'on avait déjà pu voir lors d'une exposition précédente, et on est heureux de retrouver ses œuvres, ainsi que des œuvres intimistes telles que la peinture de la femme de l'artiste, par exemple Georges de Terre. Je sais pas comment on prononce.
Oui, je ne sais pas trop comment on prononce. Oui.
Et là, je.
Euh, oui, Oui, pardon.
J'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle après avec Berthe Morisot et ses traitements des blancs au niveau du tissu. Il y a un très joli portrait qui s'appelle L'été de Berthe Morisot. Le traitement de la femme assise avec ce textile, le traitement du port. Enfin, ça me l'a rappelé quand même. Hein, mais je sais qu'il y a eu beaucoup d'influence aussi entre les
personnes. Oui, vous avez tout à fait raison, absolument. Il y a vraiment dans le traitement du vêtement, de la robe de cette jeune femme, effectivement, on retrouve un côté un peu brossé, un peu inachevé, qu'on retrouve effectivement chez Berthe Morisot. Et moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce tableau, justement, c'est que c'est le contraste qu'il y a entre ce traitement et le traitement beaucoup plus classique, léché du visage.
C'est vrai.
Et lisse aussi. Et puis, il y a dans ce tableau des tas de choses qui posent question, comme ce on ne sait pas si c'est un miroir, un tableau qui est situé derrière côté gauche du personnage, où on voit se refléter à la fois le revers de sa tête, en face d'elle un jeune homme dont on sait qu'ils déjeunent ensemble puisque la table montre son assiette, hein. D'ailleurs, la perspective est très belle parce qu'elle nous introduit directement. C'est comme si on était à table avec la jeune femme. Et puis, il y a au-dessus de ces deux têtes, le bas d'un corps, en tous les cas, avec un vêtement noir. Alors, est-ce que c'est un miroir dans lequel, effectivement, se reflètent les deux personnages, plus un autre client du restaurant qui est debout derrière. Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui sont assez énigmatiques. Hein. Oui. De la même manière, il y a un chapeau dans lequel est coincé un journal. Alors on ne comprend pas trop. Enfin voilà, c'est un très très joli tableau d'un peintre dont on sait finalement très peu de choses.
Oui, et c'est donc ce tableau qui a été choisi pour l'affiche de l'exposition. Il y a un foisonnement de détails au niveau du petit déjeuner, du chapeau, même un plateau avec un genre d'argenterie posé sur la gauche et en même temps un cadre original puisque on a coupé ce tableau, mais enfin, il y a des diagonales, il est quand même... il est superbe, c'est quelque chose qui attire le regard. Hein. C'est vraiment... Et puis la précision de ce visage, le sérieux en même temps du modèle, c'est émouvant.
Oui, c'est émouvant, absolument.
Un autre chapitre de cette exposition aborde l'art social. Alors, le réalisme social de certaines toiles interpelle sur les conditions de vie difficiles de la fin du 19e siècle, avec en toile de fond l'effort humain, la misère. Les artistes belges se sont emparés du sujet, comme peut-être auparavant, je l'ai noté également en regardant ces tableaux, Millet avec ses peintures de scènes réalistes paysannes. Après, ces petits parallèles que j'ai faits sur un plan personnel.
Oui, absolument. Il y a un tableau dans l'exposition qui ressemble beaucoup effectivement à une œuvre de Millet. Alors, effectivement, en plus, la Belgique est vraiment un pays dans lequel, bien sûr, l'industrie s'est beaucoup, beaucoup développée très vite. Et du coup, pour les peintres, c'est d'autant plus un sujet qui les fascine, puisque cette forte industrialisation entraîne bien sûr à la fois bien sûr du travail, mais dans ce travail, des inégalités, des injustices sociales, des mouvements de grève, etc. Et tous ces sujets-là intéressent les peintres.
Est-ce qu'on peut dire que l'art social a une plus grande part, a été plus représenté en Belgique qu'ailleurs ? Qu'est-ce que vous répondriez ? C'est une question simplement, parce que j'ai remarqué toutes ces toiles. Oui.
Non, je ne pense pas, parce que je pense à des peintres français, alors attendez que son nom me revienne, mais qui bénéficie d'ailleurs d'une exposition ou qui a bénéficié récemment d'une exposition importante et qui représente comme ça par exemple des carriers qui extraient, enfin le travail très pénible des carriers qui extraient les pierres des carrières, etc. Oui. Donc Je ne pense pas que ce soit une spécificité en Belgique, mais
oui.
c'est vrai que dans la mesure où c'était un pays qui très vite a eu cette industrialisation très rapide qui s'est développée, je pense que effectivement c'est un sujet qui du coup intéresse, mais de la même manière qu'en France,
Oui, oui.
enfin pas plus, je pense.
Je suis en train de me rappeler, me remémorer un tableau qui s'appelle L'Absinthe, de toute façon autour de la misère humaine, et puis il y avait aussi des peintures de blanchisseuses. Enfin, on était quand même là aussi dans un art social, une reproduction de l'art social.
Oui. Oui.
Par opposition, après, le courant symboliste intervient, il s'oppose à la vie réelle. Mythes et légendes sont réhabilités avec un traitement méticuleux du sujet.
Oui, alors là, le symbolisme, par contre, c'est vraiment, enfin, il existe évidemment en France également, mais c'est vraiment, alors là, pour le coup, je pense que ça correspond bien au, si on peut dire qu'il y a un caractère belge, ça correspond bien, puisqu'il y a à la fois dans le symbolisme la propension à une certaine intériorisation, à un monde intérieur, et en même temps, justement, ce côté très propice à tout ce qui est un peu chimérique, à l'imaginaire, etc. Et on voit ça très bien chez des peintres comme Ferdinand Knopf ou Félicien Rops ou encore Spila Aert, qui est un très très beau peintre, qui va d'ailleurs bénéficier l'année prochaine d'une grande exposition au musée d'Orsay et je crois à la Tate de Londres. Et là, effectivement, les Belges sont brillants et en plus, ça annonce évidemment le surréalisme qui vient après et dans lequel les Belges excellent également.
Ensuite, une large part est laissée au fauvisme avec donc les fauvismes. Le fauvisme, c'est une nouvelle exploitation de la couleur et qui conserve un attachement au réel. Et j'ai tout particulièrement admiré cette toile de Jos Albert, Le Grand Intérieur. Et je n'ai pu m'empêcher de penser au peintre Van Gogh avec la chaise, avec ces couleurs de orange qui alternent avec du bleu, il me semble. Je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, c'est ça.
Oui, alors là, pour le coup, Jos Albert, effectivement, d'abord, c'est un grand format, donc c'est quand même assez rare. Et puis c'est un tableau qui effectivement dans la perspective peut faire penser à des compositions d'intérieur de Van Gogh et il y a vraiment dans cette toile une grande liberté de l'utilisation de la couleur avec d'abord une palette qui est très riche et multiple et chaque couleur désigne aussi un objet. Alors c'est assez différent tout de même du fauvisme français. Là encore, il y a une spécificité, mais c'est un tableau effectivement qui est très captivant d'abord par sa dimension. Et puis aussi par la richesse de sa palette.
Oui, et on dirait qu'une couleur en appelle une autre. En fait, c'est fabuleux.
Absolument.
Et j'ai été aussi époustouflée par les transparences dans le tableau de Marcel Jeffries, le coquillage rouge. Là aussi, on retrouve des teintes chaudes, du rouge, du rose, mais ce traitement du vert est aussi quelque chose qui flatte l'œil. On est en admiration devant ces tableaux, en fait. C'est vraiment de grandes émotions. Après, il y a un chapitre consacré au surréalisme, le développement du surréalisme est exemplaire et qu'on pourrait définir comme une évasion dans l'univers du psychisme et de l'inconscient. Et l'exposition, entre autres, comporte trois toiles de Magritte, parmi les plus connues.
Quatre.
D'accord, oui. Excusez-moi, j'ai mal compté. Et parmi les plus connues, celle de l'heureux donateur, avec cette silhouette d'un homme au chapeau melon, dans l'ombre duquel se dessine un paysage nocturne. Est-ce que vous avez envie de me dire quelque chose autour de ces toiles? Est-ce que vous avez eu...
Oui, Oui, alors c'est un tableau, un des tableaux connus, un des chefs-d'œuvre de Magritte et aussi un des chefs-d'œuvre du musée d'Ixelles. Alors c'est vrai que c'est un tableau.
Ah oui, quatre, oui.
Ce qui est admirable chez Magritte, c'est que finalement il représente, enfin il prend des objets qui existent, que nous connaissons bien, mais qu'il va juxtaposer, et finalement on se retrouve avec quelque chose qui interroge le sens des choses. Et là, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on a cette silhouette, alors dont certains pensent que c'est son autoportrait. C'est une silhouette qu'on retrouve dans d'autres œuvres de Magritte. Alors le tableau aurait été offert au musée d'Ixelles par Magritte en remerciement. D'un conservateur qui s'est occupé de ce musée pendant longtemps et qui avait consacré la première rétrospective à Magritte en 1957. Donc pour le remercier, Magritte aurait offert ce tableau à ce musée. Et donc on a cette silhouette qui, à l'intérieur de laquelle il y a cette maison qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans d'autres œuvres de Magritte qui probablement est une réminiscence des endroits dans lesquels il a vécu jeune ou adolescent. Alors on a une atmosphère qui est à la fois nocturne, mais en même temps on a l'impression que le jour est en train de se lever. Et puis il y a cet objet, le grelot, qui est un autre objet qu'on retrouve souvent et qui a été interprété par certains enfin, de diverses manières. Mais là, je serai plus vigilante parce que je sais que Magritte était assez, contrairement à d'autres, réticent vis-à-vis de la psychanalyse. Et même si, dans son histoire personnelle, il y a eu des événements, qui auraient pu, avoir comment dire, ensuite des réminiscences, je pense qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Mais c'est un tableau, très très beau aussi de par sa texture et des couleurs qui sont utilisées. Il y a une espèce d'une matière assez lisse, très très belle.
Oui, par exemple, je vois l'éloge de la dialectique, il est extrêmement lumineux et de toute façon, les couleurs appellent le regard. L'été également, avec ce contraste, avec le drapeau et la façade, il nous interroge.
Absolument.
Après, je me suis attachée aux peintures de Paul Delvaux. Et alors, ce paysage antique, moi, j'étais fascinée entre l'huile, le traitement mélangé, l'huile, l'aquarelle et l'encre de Chine, c'est aussi quelque chose de. Pour moi, c'est inhabituel, mais c'est le rendu est fabuleux, puisque ça met l'accent sur la trame, peut-être de la toile aussi, avec les verticales, les horizontales de. Enfin, tel que je le ressens, c'est.
Oui, c'est vrai que c'est un tableau qui a cette particularité, cette technique très spécifique qui lui donne à la fois un côté, à certains endroits un peu esquissé, mais même enfin, chez Delvaux, c'est difficile de parler d'esquisse parce que ce sont quand même des compositions très, alors là, très énigmatiques aussi. Alors là, pour le coup, je pense qu'il y a un côté très, très psychanalyste dans son œuvre, puisque il y a toujours ce rapport à la femme qui est très très énigmatique, ces femmes qui sont représentées alors soit nues, soit habillées, dans des postures différentes qui peuvent faire penser à des odalisques, à des Vénus parfois, parfois au déjeuner de l'herbe de Manet, enfin. En tous les cas, elles sont parfois nues, parfois habillées, portant un accessoire ou non, mais elles sont complètement absentes, avec un regard totalement intériorisé, sans aucune connexion entre elles. Enfin, et elles sont placées comme ça par le peintre dans des paysages très inspirés de l'Antiquité gréco-romaine. C'est vraiment un peintre très 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 à part.
C'est vrai,
Et
oui.
assez attachant et attirant en tous les cas, intrigant.
Oui, pour moi, c'est plus une nouveauté dans la découverte que j'en fais après. Bon. Et la dernière, enfin les deux dernières parties de l'exposition abordent l'univers de l'abstraction et aussi le mouvement Cobra. Alors, si vous pouvez nous expliquer après de quoi il s'agit.
Oui, alors le musée Cobra, c'est une contraction de trois noms de capitales qui sont Copenhague, Bruxelles et Amsterdam. C'est un mouvement qui s'est créé en synergie dans ces trois villes avec des artistes comme Asger Jorn, Alechinsky au début, des personnalités comme ça. C'est un mouvement qui est né en 1947 ou 48, je me souviens plus. En tous les cas, une de ces deux années, qui a eu une durée de vie courte et qui, ce sont des peintres qui se sont retrouvés autour de l'idée d'un art un peu primitif qui faisait référence aux dessins d'enfants, etc. Donc il y a effectivement dans l'exposition de l'ODEV actuellement un tableau de Asger Jorn, qui est donc un peintre danois, mais qui a fait partie du mouvement, qui est un très très beau tableau, je trouve, au niveau des couleurs et de l'expressivité. Ce sont des œuvres très. En tous les cas, celle-ci est presque pas loin de l'expressionnisme. Et puis, il y a une représentation d'une œuvre, d'une très grande œuvre d'Alechinsky, qui a fait partie du mouvement tout à fait au début, avec d'autres mondes d'ailleurs. Mais qui très vite passe à autre chose. Mais ce tableau-là s'appelle Transmission de Cobra, donc c'est vraiment un hommage à ce mouvement qui s'est aussi intéressé à l'écriture, enfin en tous les cas à une sorte de à ce que au côté graphique
Le
et
contraste
esthétique.
avec la couleur, elle est éclatante, cette
Oui.
toile.
Oui.
Après, au niveau de l'abstraction, est-ce que vous avez envie d'évoquer certaines toiles? Parce que il y a de nombreuses toiles dans le parcours de l'exposition. Le pigeon, par exemple, quelque chose qui était à la fois une abstraction, mais avec une
Oui.
représentation centrale qu'on reconnaît.
Alors, je dois avouer que je connaissais très peu l'abstraction belge. Bon, effectivement, elle rejoint quand même des tendances générales avec, en gros, deux mouvements. L'un qui va plutôt vers une abstraction géométrique qui prend en compte l'espace, disons, qui est autour de la toile. Et puis, une abstraction plus lyrique qui est plus gestuelle. Effectivement, avec des gens comme d'autres Alechinsky. Alors, ce tableau dont vous parlez, effectivement, pour moi, il est très énigmatique. Ce pigeon qui est au centre et qui dont irradie des sortes de lignes, c'est presque un peu métaphysique, je
Tout à
trouve.
fait, oui, avec une sphère sur le dessus du corps.
Oui.
C'est très
Voilà, c'est très
esthétique.
très alors
Oui.
là très très intrigant aussi, oui.
Oui. Et ces lignes qui peuvent, ça appelle l'imaginaire. On peut y trouver des explications dans son propre imaginaire aussi, hein.
Oui, bien sûr.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations pratiques, Madame Papendrastic,
Oui, bien sûr.
pour
Alors,
le musée,
donc
les
l'exposition est
visites?
visible tous les jours, sauf les lundis. Et puis, ça va être fermé puisque ça va tomber dans cette période. Alors, le 25 décembre et
Oui.
le 1er janvier.
Oui.
Donc, sinon, c'est ouvert donc tous les jours, sauf les lundis,
Oui.
de 10 h à 18 h, sans interruption. Et il y a la possibilité de suivre une visite guidée tous les jours à des heures fixes. Alors je crois que c'est 11 h et 15 h, si ma mémoire est bonne. Mais enfin, je vous invite
Oui,
à vérifier sur le site internet.
je l'ai vu
Donc
11h et 15h, oui, c'est noté, oui, du
oui, c'est
mardi au
ça. Voilà.
samedi, 11h et 15h.
Voilà.
Il y a des conférences, des soirées musicales.
Voilà. Il y a une soirée musicale bientôt, le 16 novembre, donc c'est très prochainement, une soirée effectivement récital piano-voix avec des compositeurs belges que l'on fait découvrir au public
À
et
20h30.
une conf À 20h30,
je l'ai sous les yeux, oui, j'ai regardé.
20h30, je ne sais plus.
Oui.
Voilà. J'ai plus l'heure exacte en tête. Et puis une conférence, mais dont je n'ai pas encore la date précise, qui aura lieu en janvier, me semble-t-il, avec Anthony Spiegeler, et ça concerne justement toute l'abstraction.
Mais je vous remercie, Madame Papin-Drastic. J'espère que nous aurons donné envie à nos auditeurs d'aller découvrir cette magnificence autour de la peinture belge, cette explosion de couleurs, ce feu d'artifice. Je ne peux pas dire autrement. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.